Laudetur Jesus Christus.
Vous écoutez Radio Vatican, il est 18h.
Vatican Radio, World News, French and English edition.
Violence indicible en Afrique du Sud. Dans les quartiers pauvres, les Sud-Africains s'en prennent aux immigrés des pays voisins. Résultat, 22 morts en une semaine, des centaines de blessés et des milliers de déplacés. Témoignage dans ce journal. Nouveau bilan après le séisme en Chine. Il aurait fait en tout 40 075 morts et plus de 247 000 blessés. Le pays observe 3 jours de deuil national depuis hier. Un exemple suivi un peu tard par la Birmanie. La junte a décrété ce matin une période de deuil dans le pays alors qu'elle s'apprête à accueillir jeudi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Reprise en Irak du procès de Tarek Aziz, porte-parole et émissaire de l'ancien président irakien Saddam Hussein. Aujourd'hui aussi, les forces irakiennes ont pris le contrôle du bastion chiite de Sadr Sidi à Bagdad.
Le journal Armance Bourgois.
Bonjour à tous. L'Afrique du Sud en proie à la violence xénophobe. Ce matin, près de 300 personnes ont été interpellées après les violences qui ont fait près de 22 morts depuis une semaine et des centaines de blessés. Premier visé, les Zimbabwéens, nombreux à avoir émigré dans le pays ces dernières années pour fuir la crise politique et économique de leur propre pays. Les Sud-Africains des quartiers pauvres font porter aux immigrés la responsabilité de la criminalité et du chômage que connaît le pays. 13 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer pour trouver refuge dans les églises et les centres sociaux. Je vous propose d'écouter Marielle Cornelis, directrice de programme pour MSF à Johannesburg. Elle revient pour nous sur les différentes formes prises par la violence sur place.
Les capacités des hôpitaux sont clairement tirées un peu à bout. Mais il y a une réponse des services d'urgence. Donc les ambulances se déplacent. Mais les ambulances, comme certains policiers aussi, ne peuvent pas aller au-delà de l'entrée de certaines banlieues qui sont assez violentes. Donc les gens qui nous arrivent sont les gens qui ont réussi à sortir du township. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les personnes sont référées, sont généralement bien soignées, mais les personnes qui ont été transportées en ambulance passent en priorité, mais il y a toutes les autres blessures ou toutes les autres pathologies et les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Ils ont peur d'être identifiés, ils ont peur de sortir. Donc voilà, donc MSF, ce qu'on fait, c'est dans les centres de regroupement. Bon, on essaie de visiter toutes les personnes, de faire énormément de visibilité. Donc les gens savent qu'il y a une consultation et on travaille avec les services d'urgence. Hier, on avait traité, 150 personnes dont les blessures étaient liées à une attaque. Vous avez des viols, vous avez des attaques par balles, vous avez des armes plus traditionnelles. Les gens sont battus quand même, hein. Ça c'est assez courant. Et puis, bon, nous on les a pas traités, mais vous avez dû voir les images des personnes qui ont été brûlées vivantes aussi.
C'était Marielle Cornelis, directrice de programme pour MSF à Johannesburg. Elle répondait à Marie Duhamel. Violents affrontements dans une région pétrolifère stratégique du Soudan. Des combats ont opposé pendant au moins 5 heures aujourd'hui l'armée et les anciens rebelles sudistes, menaçant un fragile accord de paix conclu en 2005. Pas de bilan pour l'instant. La province du Sichuan révise son bilan à la hausse. Le gouvernement local publie aujourd'hui un bilan de 39 577 morts pour cette seule province. Un chiffre qui dépasse de loin le bilan national donné par le gouvernement central de Pékin. Dans l'ensemble des régions touchées, le séisme aurait fait 40 075 morts et plus de 247 000 blessés. Un des nouveaux chiffres annoncés aujourd'hui par le Centre national de contrôle et de prévention des désastres, la Chine qui observe depuis hier un deuil national de 3 jours. Deuil national aussi en Birmanie, 2 semaines après le cyclone Nargis. La junte semble enfin prête à lâcher du lest et à prendre la mesure de la catastrophe. Le pays se prépare à accueillir un véritable ballet diplomatique avec la visite exceptionnelle jeudi du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et puis une conférence de donateurs organisée dimanche à Rangoon. Et depuis ce matin, un deuil de 3 jours a donc été décrété par la junte pour les 133 600 morts disparus de la catastrophe. La correspondance régionale de Marie Normand.
La Birmanie est officiellement en deuil jusqu'à jeudi. Pourtant, mis à part les drapeaux en berne, il est difficile de le constater à Rangoon, la capitale économique. En effet, aucune minute de silence n'est programmée et les magasins restent ouverts. 18 jours après le passage du cyclone, de nombreux Birmans affirment d'ailleurs ne pas vraiment savoir en quoi consistent ces 3 jours de deuil. Cette initiative montre pourtant que la junte, toujours sous pression internationale, cherche à changer d'attitude. Alors que la Chine, son principal allié, est aussi entrée en deuil après le séisme meurtrier qui a touché la région du Sichuan, le régime militaire s'attache à donner quelques signes de bonne volonté. On l'a vu aussi dimanche, lorsque la télévision birmane a diffusé des images du général Than Shwe en visite pour la première fois dans les zones sinistrées. Cette campagne de communication est sûrement moins destinée aux étrangers qu'à la population birmane. En effet, la junte fait face à une échéance politique cruciale. Samedi, les habitants du delta de l'Irrawaddy sont appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel. Ce scrutin, qui devrait asseoir le pouvoir politique des généraux, avait été reporté dans les zones les plus touchées par le cyclone. À Bangkok, Marie Normand pour Radio Vatican.
Chen Shui-bian troque son statut de président pour celui de suspect. Le président sortant de Taïwan fait l'objet d'une enquête dans une affaire de corruption. Il avait déjà été suspecté il y a 2 ans, mais la justice n'avait rien pu faire en raison de son immunité présidentielle d'alors. Pendant ce temps-là, le nouveau président de Taïwan, Ma Ying-jeou, prêtait serment aujourd'hui avec pour ambition principale un rapprochement économique et politique avec la Chine. La correspondance sur place de Florence de Changy.
Après 8 années sous la présidence de l'indépendantiste Chen Shui-bian, 8 années de tension entre les deux rives du détroit de Taïwan, l'heure est à l'apaisement. Ma Ying-jeou a été élu avec un mandat implicite de renouer le dialogue avec Pékin et de faciliter les échanges. Nous reconnaissons tous deux le concept d'une seule Chine, mais nous l'interprétons différemment, a déclaré Ma Ying-jeou. Autrement dit, libre au Kuomintang comme au Parti communiste chinois de considérer que la Chine unique dont il parle est celle du Kuomintang ou celle du Parti communiste, du moment qu'ils acceptent ce concept de base de la Chine unique. Nous voulons la paix et la stabilité dans le détroit, a déclaré Ma Ying-jeou, qui a également rappelé les principes élémentaires de sa politique. Pas de déclaration d'indépendance de Taïwan, mais pas d'unification avec la Chine et pas non plus de recours à la force. Quelques heures après l'investiture du nouveau président, l'ancien président était inculpé dans une affaire de détournement de fonds publics pour laquelle sa femme a déjà été entendue, l'immunité présidentielle étant arrivée à échéance. Hong Kong, Florence de Changy pour Radio Vatican.
Le Timor fête ses six ans comme État indépendant, l'occasion pour son président José Ramos Horta de réaffirmer les priorités de ce petit pays, rester uni et combattre la pauvreté. Le Timor oriental reste l'État le moins développé d'Asie et peine à se stabiliser. Le 11 février dernier, Ramos Horta était grièvement blessé lors d'une attaque de soldats rebelles. L'armée irakienne est à Sadr City. Hélicoptères et engins blindés ont fait leur entrée ce matin dans le bastion chiite de Bagdad. Un déploiement qui s'est fait dans le calme et sans aucun incident. Toujours à Bagdad, Tarek Aziz est de retour dans le box des accusés en l'absence de ses avocats. Tarek Aziz, qui fut pendant 20 ans le porte-parole et l'émissaire de l'ancien président irakien Saddam Hussein, il est jugé pour l'exécution en 1992 de 42 commerçants. Laure Stéphan.
Un complot, une affaire de revanche personnelle. C'est ainsi que Tarek Aziz, depuis la barre des accusés, a qualifié ce procès. Ce proche collaborateur de Saddam Hussein a même estimé que l'actuel gouvernement irakien a été responsable de l'attentat à la bombe qui l'avait blessé il y a de cela 28 ans. Ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre dans l'Irak d'avant 2003, Tarek Aziz refuse encore d'être tenu personnellement responsable des accusations portées à son encontre. À ce sujet, si l'on connaît les crimes en cause, à savoir l'exécution en 1992 de 42 commerçants accusés d'avoir spéculé sur les prix des produits alimentaires dans un contexte de blocus. Les chefs d'accusation à l'encontre de l'ancien leader ne sont eux pas précisés. Tarek Aziz risque en tout cas la pendaison et le procureur qui rappelait que certains commerçants avaient eu les mains amputées ou les oreilles coupées pour avoir pratiqué le marché noir a demandé ce mardi une peine adaptée qui puisse consoler les veuves et les personnes opprimées. Reste que la séance de ce mardi a eu lieu en l'absence des avocats de l'accusé. Son principal défenseur résidant en Jordanie a dit craindre pour sa sécurité en Irak.
Et sur le plan diplomatique, George W. Bush a dû présenter ses excuses aux autorités irakiennes. Un soldat américain avait, au cours d'une séance d'entraînement, pris le Coran pour cible de tir. Par ailleurs, au moins 8 personnes ont été tuées dans la journée au cours de violences, dont 2 attentats contre des milices sunnites en lutte contre Al-Qaïda. Parmi les victimes, une fillette de 8 ans. Et puis les Libanais devront attendre un jour de plus pour connaître le résultat des pourparlers entre majorité et opposition libanaise au Qatar. Sous l'égide de l'émir du Qatar, cette rencontre a finalement été prolongée jusqu'à demain. Un délai accordé par la Ligue arabe à l'opposition pour choisir entre 2 propositions de sortie de crise. En Italie, à la veille du premier conseil des ministres, le pacte sécurité préparé par le nouveau ministre de l'Intérieur fait déjà parler de lui. Présenté demain, il comportera notamment des mesures sévères en termes d'immigration. Quelques jours après l'arrestation de centaines de clandestins et les incendies des camps nomades à Naples la semaine dernière, immigration et surtout question Rome sont en ce moment même au centre de débat au Parlement européen. Betsabé Salem.
C'est demain que le nouveau ministre de l'Intérieur présentera le pacte sécurité. Roberto Maroni, du parti populiste de la Ligue du Nord, a confirmé sa volonté de créer un délit d'immigration clandestine, une mesure parmi d'autres qui entrerait en vigueur d'ici fin juillet et qui ne font pas que grincer les dents des députés européens, mais aussi de l'opposition et de l'Espagne. La tension ne faiblit pas entre Rome et Madrid depuis que la vice-présidente du gouvernement espagnol a déclaré vendredi dernier ne pas partager la politique d'expulsion sans respect de la loi et des droits humains des immigrés. Dimanche, un ministre espagnol a accusé le gouvernement de Berlusconi de vouloir criminaliser les immigrés. Des interférences inacceptables, selon le ministre des Affaires étrangères italien, Francesco Frattini, qui n'a pas manqué de rappeler que le gouvernement de Zapatero avait lui-même eu une politique dure et même très dure envers l'immigration clandestine.
Et puis demain, lors du Conseil des ministres qui se tiendra symboliquement à Naples, c'est bien sûr le thème des déchets qui sera abordé. Des milliers de tonnes d'ordures gisent encore aux alentours de la ville. Là aussi, on attend des mesures radicales. Les femmes en situation de conflit, c'est le titre d'une table ronde qui se tient en ce moment même à Rome, organisée par l'association Babelmed, un magazine en ligne qui vise à promouvoir les cultures dans l'espace méditerranéen. Cette rencontre est le fruit d'une série d'enquêtes sur les femmes en Méditerranée, des enquêtes menées par des femmes journalistes des deux rives du bassin méditerranéen. Elles sont marocaines, italiennes, algériennes, libanaises ou turques. Leur travail est l'occasion de dresser un état des lieux souvent loin des clichés couramment répandus. L'une d'entre elles, la journaliste algérienne Rania Ralfi, s'est confiée à Olivier Bonnel. Elle est revenue sur la situation de la femme en Algérie aujourd'hui. On l'écoute.
Effectivement, la situation des femmes algériennes n'est pas reluisante sur le plan juridique. Elles sont encore considérées souvent par la loi comme mineures. Mais ce que les médias, la représentation en général, ignorent, qu'elles se battent, qu'elles assurent une grosse partie de l'économie nationale par leur travail, qu'elles avancent dans tous les domaines et surtout qu'elles n'ont pas l'intention de rester mineures. On les représente souvent comme des victimes, des femmes soumises qui ne décident pas de leur vie, ce qui est totalement faux. Pendant la guerre civile des années 90, elles ont été à l'avant-garde de la résistance. Quand les hommes baissaient les bras, parfois, quand le gouvernement se laissait déborder par les groupes islamistes, Elles ont toujours été à l'avant-garde. Et aujourd'hui, je crois que ça les a renforcées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles estiment qu'elles ont droit à plus d'égalité et plus de chances.
Nouvelle mobilisation des enseignants mexicains. Ils sont près de 70 000 à manifester dans les rues d'Oaxaca depuis hier pour exiger le départ du gouverneur de cette région sud du Mexique, non sans rappeler les 6 mois de mobilisation en 2006 qui avaient paralysé la région. Les manifestants réclamaient le départ d'Ulysses Ruiz, des manifestations qui, à l'époque, avaient fait 13 morts. 2 ans après, les enseignants continuent de réclamer la libération de l'Assemblée populaire des peuples d'Oaxaca, le mouvement civil qui a vu le jour lors des événements de 2006. Sur place, Anne Bignard.
La section 22 du syndicat national des travailleurs de l'éducation doit négocier avec Ulysses Ruiz, le gouverneur de l'État, toujours en place, malgré le long conflit qui voulait son départ. Le syndicat exige d'abord la liberté immédiate pour les prisonniers toujours retenus depuis novembre 2006. D'autre part, près de 100 écoles sont occupées depuis cette date par des instituteurs proches du parti du gouverneur, le PRI, qui a gouverné le pays pendant 71 ans au Mexique. Les instituteurs en poste dans ces écoles n'ont jamais pu retrouver leur place après la grève. Le syndicat demande aussi de meilleures conditions de travail pour les instituteurs qui sont parmi les plus mal payés du pays. La mobilisation des instituteurs n'est pas une surprise, car chaque année, ils tentent d'obtenir une rallonge budgétaire. Mais l'ampleur de la mobilisation montre que les instituteurs sont bien décidés à obtenir ce qu'ils réclament depuis 2006. Le gouverneur s'est dit dans la meilleure disposition pour négocier. Ulysses Ruiz avait dû s'exiler 6 mois en 2006 après avoir tenté de déloger violemment les instituteurs du centre-ville. À Mexico pour Radio Vatican, Anne Vigna.
Enfin, le pétrole atteint aujourd'hui à New York un nouveau prix record. Il est désormais à 129 $ le baril de brut. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, à 8h15, vous serez en compagnie de Xavier Sartre pour un nouveau point d'actualité internationale et du Vatican. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée.
You're listening to Vatican Radio World News and the headlines this Tuesday evening. The UN Secretary General heads to cyclone-stricken Burma.
The death toll from China's earthquake reaches over 40,000.
India and Pakistan resume peace talks.
And Britain's Parliament votes on abortion legislation. Good evening, I'm Irene Lagan.
And I'm Lydia O'Kane. UN Secretary General Ban Ki-moon said today he's heading to Myanmar, formerly known as Burma, hoping to meet the country's military leaders to press for speedy relief for the 75% of those affected by Cyclone Nargis who've received no help. He said he's confident that aid can be stepped up quickly, and he welcomed the government's recent flexibility in allowing Asian relief workers to begin distributing international aid supplies. Meanwhile, flags across Myanmar flew at half-mast today, the start of 3 days of mourning for 134,000 people left dead and missing from Cyclone Nargis. The Order of Malta's emergency relief service in the country, Malteser International, is caring for 50,000 survivors in the seriously damaged coastal town of Labuta, where cholera is threatening the local population. Malteser International Secretary General Ingo Radke told us his organisation needs significant additional help in order to meet the needs of the people.
These people are in a terrible condition. It's more than 2 weeks ago that the cyclone struck the region of Labuta, and most of these people are still lacking the necessary provision, either of food, of drinking water. We're just too small in the number to help them. We need the other organizations, which actually are not able to work in the Delta. So we can bring, we from Malteser International, we can bring health to the people, but there should be much, much more. Because if you live for 2 weeks without provision under these conditions, we have the monsoon there, heavy rainfalls, there was the threat of a second cyclone, and you have lost everything. You're cut off from food, from health, you're cut off from water. This is really a threatening situation for most of the population.
Chinese officials say more than 40,000 people are known to have died following last week's powerful earthquake in Sichuan province. The aid effort is now largely focused on finding shelter for millions of people who have been left homeless. Tens of thousands are still missing, and hopes are fading of finding many more survivors. In other developments, Chinese media has reported a woman was pulled from the rubble earlier, 8 days after the disaster. Peter Ford is the Christian Science Monitor's Beijing correspondent. He's just returned from Sichuan province and says the quake has brought the country together.
People in Beijing and I think across China are reacting very, very emotionally and very profoundly to what's happened in Sichuan. There's been the most extraordinary outpouring of solidarity. When I was in Sichuan, I saw piles, mountains of clothes that people had donated. People were driving thousands of kilometers to volunteer, to help distribute things, to carry food and water themselves. Yesterday, there was a three-minute mourning period, whereas in the West, it would be 3 minutes of silence. In China, it was 3 minutes of enormous noise. In Beijing, everybody stopped driving, but they hooted their car horns, the factory sirens went off, the fire alarms went off. It was an amazing scene.
Turning to news from Africa, and South African security ministers have been discussing using the army to help stop a wave of attacks on immigrants, which has left at least 23 people dead and scores injured. Violence targeting foreigners spread today to 4 new areas near Johannesburg, while 13,000 have reportedly fled their homes. Mobs of South Africans have been roaming townships looking for foreigners, many of whom have sought refuge in police stations, churches and community halls. Editor of the Southern Cross Catholic newspaper in South Africa is Gunther Simmermacher. He says xenophobia is nothing new to the country.
xenophobia is nothing new to South Africa. There's a huge influx of migrants to South Africa, many of them, of course, political refugees or economic refugees. Those who are being targeted at the moment in the Johannesburg area tend to be mostly Zimbabweans with some Mozambicans and Malawians. Whatever one will call the xenophobic attacks in South Africa, they certainly are utterly shameful on South Africa, which is something that politicians have recognized as well. It's violence against fellow Africans is unacceptable because it ignores the fact that during the struggle against apartheid, the liberation movement found a very hospitable reception in many parts of Africa. For South Africa to repay those countries in such a way is shocking and is shameful to this country. The politicians are feeling rather taken by surprise by all this and feeling rather powerless about this whole situation. Mr. Zuma has made some very strong statements.
Sudanese soldiers battled former southern rebels today in the oil-rich region of Abyei, despite a five-day-old ceasefire, UN and southern officials said. The United Nations has pulled most of its civilian staff from the town, which lies just north of the disputed boundary line between North and South Sudan. It remains contested despite a peace accord in 2005 that ended a 21-year-old civil war. Clashes erupted there last week between Sudan's Arab-dominated army and the Sudan People's Liberation Army, an ethnic African militia.
A large force of Iraqi government troops has moved deep into the Baghdad stronghold of the radical cleric Muqtada Sadr. Nathan Morley reports.
Troops moved into Baghdad's Sadr city neighbourhood in an operation aimed at bringing government control over the Shiite militia stronghold. Security officials say they launched Operation Peace early Tuesday to try and stabilise and secure the area. A military spokesman says hundreds of troops have deployed in different sectors of the city. He also said no violence has been reported so far. Fighting in Sadr city has killed hundreds of people since late March when the Iraqi Prime Minister, Nouri al-Maliki, ordered a crackdown on Shiite militia. Meanwhile, the US military continues to feel the backlash after one of their soldiers was caught using a copy of the Holy Quran for target practice with his machine gun. Major General Jeffrey Hammond said the incident should not have happened.
In a most humble manner, I look in your eyes today and I say, please forgive me and my soldiers. The actions of one soldier was nothing more than criminal behavior. I come before you today seeking your forgiveness.
In a separate development, the trial of Tariq Aziz has resumed in Iraq, but without the new legal team he requested 3 weeks ago. The team of French and Italian lawyers have not been given Iraqi visas, and it's unclear who will represent Mr. Aziz. The former foreign minister is accused over the deaths of 42 traders who were executed for sanctions profiteering in 1992. For Vatican Radio, this is Nathan Morley reporting.
Pakistan said it would release nearly 100 Indian prisoners in a goodwill gesture as it resumed peace talks with India today for the first time since Islamabad's new civilian government took over after years of military rule. Both neighbor countries want to sustain the slow-moving dialogue started 4 years ago. But analysts warn the instability of the new Pakistan government could further hinder progress. We spoke to the Bishop of Islamabad, Rawalpindi, Anthony Theodore Lobo. He says that there are some that would like to see the peace talks fail.
Every right-thinking person here and abroad feels that that's the right thing to do. It's high time we made peace with one another. Having said that, I think there are vested interests, especially business, those involved in the arms trade, that would like to sabotage the peace talks and see that they don't happen. If by some kind of minor miracle these peace talks succeed and we make a plan to proceed along the road to peace, there are people who want to block the implementation of that plan.
British lawmakers are voting today to revise abortion laws in the country as part of a proposed new bill. Opposition party leader David Cameron and several cabinet ministers advocate lowering the 24-week limit for abortions in Britain. Legislators are voting on whether to retain the current limit or lower it to 22, 20 or 16 weeks. As part of the Human Fertilisation and Embryology Bill, lawmakers yesterday voted to approve controversial plans to allow the use of animal-human embryos for research. We spoke to Charles Wookie, Assistant General Secretary of Catholic Bishops' Conference of England and Wales, who explained more about the bill.
I mean, the bill raises, and one of the difficulties, in fact, for everybody, is that it raises a huge number of difficult and different moral questions. One of them is the question of allowing for the first time research on animal-human hybrid embryos. A second is the question of what are called saviour siblings. That's to say, could it be ever lawful to allow, under the IVF process, an embryo to be screened and to be implanted, and screened because it will be a match for a tissue needed by an older sibling who perhaps has something like leukemia or a very serious disease? And a third is the question of in IVF, whether or not the centres that do IVF should have to have regard to the child's need for a father. All of these in themselves raise very profound issues. And then if that wasn't enough to keep the parliamentarians going, they've also had in this bill, and are debating as we speak, a proposal to change the law on abortion. Because the bill covers so many issues, it is within the parliamentary rules to use this bill to change the abortion laws. So it's the first opportunity for 18 years that there has been to do that. And so Parliament in the UK at the moment is having 2 days of free votes on all these very complex and important ethical questions.